Ça va toi aujourd'hui?
C'est la première fois que tu viens?
Là je me sens bizarre.
Qu'est-ce qui se passe?
Je suis pas du tout, je te jure.
Oh, j'ai encore un truc à dire.
Non, ça va pas trop.
Oh là là, comment tu me dis ça?
C'est comme je sens.
Si tu racontes. J'ai encore un truc à dire.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Mais qu'est-ce que tu racontes?
Bah ouais, on passe à la radio.
Silence Radio. La radio des schizos, la radio des paranos, la radio des gens pas réglos.
Bonjour et bienvenue sur Radio Panique 105.4 avec l'émission Silence Radio comme tous les troisièmes lundis du mois. C'est la rentrée. Comme toute rentrée, il y a des changements comme par exemple le déménagement. Déménager, c'est loin d'être facile. On change son environnement, ça crée du stress, ça nécessite de trouver de nouveaux repères. Mais qu'est-ce qui change lors d'un déménagement? Que provoque un déménagement au point de vue pratique et psychologique? Comment l'appréhender? Aujourd'hui, Silence Radio se penche sur le thème du déménagement et de l'accès au logement pour les usagers en santé mentale. Nous aborderons les aides pour rendre le déménagement plus serein.
Notre invité est Christian Marchal. Bonjour.
Bonjour.
Travailleur à l'autre lieu, qui est une association qui propose différentes formules d'accueil et de soutien des personnes en souffrance psychique, hors milieu médical et hors structure thérapeutique. Nos chroniqueurs vont également témoigner de leur expérience personnelle sur ce thème. Nous aurons également comme invité Françoise Calonne. Bonjour.
Bonjour.
Vidéaste et plasticienne qui nous parlera de la rentrée mouvementée de leur atelier où elle travaille, où ils se partagent entre déménagement et expo au centre culturel Jacques Franck. Et bien sûr, nous avons nos chroniqueurs habituels. Aujourd'hui, en studio, nous avons Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Tanguy.
Hello.
Anne-Sophie.
Bonjour. Et Aline, bien sûr.
Et Aurélie, en régie.
Donc on va directement aller dans le vif du sujet avec Christian Marchal. Donc Christian, est-ce que vous pourriez vous présenter?
Oui, donc je m'appelle Christian, comme tu l'as bien dit. Je travaille à l'autre lieu, je travaille comme animateur, plus particulièrement dans le secteur de l'éducation permanente.
Ok, et donc en fait vous avez, vous faites aussi du travail au point de vue logement?
Tout à fait.
Pouvez-vous nous décrire ce que vous faites là comme travail?
Moi, particulièrement, je ne travaille pas vraiment dans les maisons de l'autre lieu, mais nous avons trois maisons, donc deux maisons communautaires, une maison semi-communautaire, c'est plutôt une question d'architecture, que c'est communautaire, semi-communautaire, qui représente à peu près 15 unités de logement, plus ou moins.
Et donc, quelle est la différence entre une maison communautaire et semi-communautaire?
C'est tout simplement l'aménagement du lieu. Donc, dans la maison semi-communautaire, ils ont des unités de logement, on va dire, plus individualisées, plus, où ils ont une cuisine, ils ont une salle de bain individuelle, enfin, ce genre de choses. Tandis que dans les maisons communautaires, il y a beaucoup plus de pièces partagées, comme un salon, comme une salle de bain, comme d'autres choses, quoi. Donc, il y a beaucoup plus de choses partagées. Semi-communautaire, parce qu'il a quand même une place qui est assignée dans cette maison, une pièce qui est assignée pour des rencontres, des croisements, ce genre de choses.
Et donc, en fait, quand on est quelqu'un donc, qui cherche un logement ou voilà, enfin, qui est, quand on est usager en santé mentale, comment est-ce que vous travaillez avec la personne, comment est-ce que ça se passe pour trouver un logement, par exemple?
Pour trouver un logement, ça, il y a différents, je vais dire, cas de figure.
Okay.
Donc, soit on va dans le logement, je vais dire, institutionnalisé. Donc, il peut être des initiatives d'habitation protégée. Donc, des logements spécifiques pour un public spécifique à ce moment-là, qui est beaucoup plus cadré. Les logements à l'autre lieu, se détachent, on va dire, de ces logements institutionnels parce qu'il n'a pas de cadre vraiment thérapeutique dans ces logements. Donc, il n'a pas un suivi thérapeutique, il n'a pas un infirmier qui va passer pour vérifier que les personnes prennent bien leur traitement, comment ils aménagent leur vie. Mais on est là en cas de soucis, de problèmes, d'aide, on va dire, à la communauté pour que les relations soient le plus harmonieuse possible dans cette vie en communauté, on est là pour donner ce genre de coup de main, quoi. Donc à différencier des logements vraiment institutionnels, et nous travaillons avec des baux tout à fait ordinaires d'ailleurs.
Et Vas-y, Pascal.
Quels sont, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien intégrer ces logements. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il faut poser des candidatures? Comment ça se passe?
Ben, il y a d'abord une première demande à faire, donc un intérêt pour aller vivre dans ce genre d'habitation. Le problème, et qui en est pas quelque part dans les maisons de l'autre lieu, c'est qu'on travaille avec des bouts, donc on n'a pas de temps limité comme dans d'autres habitations, qui est limité à 2 ans, 5 ans, 4 ans, enfin avec un temps bien limité. Après, on cherche autre chose. Nous, ben, la personne qui désire peut rester indéfiniment dans ce logement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de turnover. Donc, voilà. Donc, pour une personne qui perd, donc on a une unité de logement qui est sur le marché, on va dire, du logement. À ce moment-là, ben, on va rappeler toutes les personnes qui ont posé un intérêt pour ce genre de logement. Et à ce moment-là, ben, on va vérifier avec eux si, ben, la vie communautaire, ben, ça leur convient, si le type de logement leur convient. Enfin, donc, on va voir s'ils sont preneurs du projet de l'autre lieu. Et c'est plutôt dans ce genre de relation qui va, faire que la personne intègre le logement ou pas.
Mmh. Et comme le thème d'aujourd'hui, c'est le déménagement, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de turnover, donc je suppose qu'il n'y a pas énormément de déménagements, c'est ça que ça implique.
Oui, on en a quand même, hein, donc soit des personnes partent pour d'autres logements, en plus un logement individuel, ou revient dans un logement institutionnel, ou partent en maison de repos, ce qui est arrivé aussi, parce que le logement, on savait plus, le logement n'était plus adapté. Mmh. Par rapport à l'autonomie de la personne. Et donc, à ce moment-là, il a ce déménagement voulu ou moins voulu. Là.
Mais on dit que le déménagement, c'est un gros stress dans la vie d'une personne. Comment vous avez des expériences chez vous de personnes pour qui c'est vraiment difficile d'arriver là et de vivre en communauté ou en semi-communauté ou...
Oh, ce n'est jamais facile. Bon, maintenant... Je crois que c'est selon les personnes. Il y a des personnes qui ont plus facilement de déménager d'un lieu à l'autre, qui ont plutôt une vie entre guillemets plutôt qui s'apparente au nomadisme, qui vont d'un lieu à l'autre, et tout est adapté pour ce genre de vie. D'autres, ben, c'est beaucoup plus stressant parce qu'ils emmagasinent des beaucoup de symboliques, des souvenirs, des choses et qui peut ne paraître pas très important pour quelqu'un d'extérieur, mais qui est très important pour la personne. Je pense aussi pas spécialement les personnes qui vivent à l'autre lieu, mais tout simplement une personne plus âgée qu'on doit déménager en maison de repos parce qu'elle n'a plus l'autonomie à cause de divers maladies. Mais chaque fois, c'est un stress, c'est une grande violence pour ces personnes où on le détache vraiment de toute une vie, de tout ce qu'ils ont pu accumuler, de souvenirs, d'attaches, et reconstituer une autre vie est des fois très 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 dure, très difficile et très violente pour la personne. Donc il y a toujours un arbitrage à faire entre le bien-être de la personne et ce que la personne veut, son autonomie. Donc c'est très compliqué, quoi. Et c'est très déchirant aussi bien pour la personne que pour les personnes qui les accompagnent. Je crois que tout le monde dans une famille a connu cette expérience d'une personne plus âgée. Ben, on ne sait plus comment l'accompagner, et puis on prend la décision de la mettre dans une autre maison, aussi belle soit cette maison. Voilà, c'est toujours très déchirant et très dur. Ouais. Et je n'ai pas de solution.
Quel type aussi d'accompagnement, ou est-ce que tu peux nous donner des exemples? Parce que voilà, il y a les maisons de l'autre lieu, mais d'autre part, il y a aussi un accompagnement qui se fait et qui peut être un peu selon les besoins de la personne, et aussi donc du coup dans le circuit du logement classique. Qu'est-ce que vous pouvez rencontrer dans le récit des gens comme frein, justement, dans la recherche ou
Dans le logement classique, outre, on va dire, la stigmatisation, tout ce qui est en rapport avec la maladie, le stigmate du trouble mental, donc on conseille quand même pas de pas trop en dire non plus. Et là, on est vraiment sur des contraintes économiques, donc qui dit trouble mental dit souvent, je vais dire, revenu de remplacement. Et c'est souvent là que ça coince. Donc le propriétaire veut s'assurer qu'il ait son loyer à temps et en heure, avec une certaine régularité. Et on doit vraiment faire en sorte de rassurer le propriétaire potentiel. C'est ce qu'on peut faire en tant qu'organisation à l'autre lieu, donc accompagner la personne.
Ah oui, c'est une
dévolution. Oui, enfin, c'est selon la demande, mais c'est déjà arrivé, ce genre de choses, donc de faire la visite avec la personne qui est en demande de logement, de rencontrer le propriétaire, d'essayer de calmer les craintes du propriétaire, voir qu'il a déjà un suivi, pour juste s'assurer qu'il ait son loyer et que son bien soit, on va dire, bien entretenu et pas détruit, quoi. Donc ce genre de petits services, ou avec d'autres services purement pratiques, d'essayer de trouver un véhicule et quelques bras pour déménager. C'est tout bête, mais des fois ça peut être vraiment très difficile pour les personnes, quoi.
Et donc, on va justement, donc Christian, tu avais déjà parlé des IHP. On a Tanguy qui peut nous en dire plus. Donc, en fait, Tanguy, la question, donc pour toi, c'est que d'abord, qu'est-ce que c'est un IHP? Et aussi, Christian, si voilà, tu peux aussi dire quelque chose par rapport à ça aussi.
Pour moi, un IHP, c'est comme un appartement normal, sauf qu'on est encadré en quelque sorte. Et par exemple, dans celle où j'ai emménagé il y a pas longtemps, on voit son référent une fois par semaine pour mettre les choses au point, pour dire ce qui va pas, tout ça. Et le contact, ou sinon, se fait entre les résidents. En tout cas, le contact se fait naturellement en croisant les gens dans le couloir ou quoi. Mais il n'y a pas vraiment de rencontre au préalable. Enfin, il y en a une, et puis après, on est lâché un peu chacun chez soi. Et il y a aussi un petit truc, c'est que quand on arrive en IHP, souvent, c'est des chambres par deux. C'est rare que ce soit des chambres individuelles, donc on nous impose un colocataire. Et moi, j'ai eu de la chance, je suis bien tombé, donc j'ai vraiment un chouette coloc, donc j'ai rien à redire là-dessus. Mais c'est vrai que ça peut poser problème aussi de tomber sur quelqu'un avec qui ça ne colle pas et avec qui ça peut devenir plus difficile de vivre, parce que c'est quand même la vie au quotidien et on partage une certaine intimité aussi, donc voilà, c'est pas évident tous les jours.
Vas-y. Est-ce que la référente, là, elle intervient alors quand il y a, par exemple, des conflits entre les personnes qui habitent là ou...
Oui, bien sûr.
Ça fait partie de son rôle, en
fait. Oui, c'est son rôle. Et, s'il faut, on peut arranger une rencontre et se voir pour mettre les choses au point et arranger les bisbrouilles, mais oui, il y a toute une infrastructure qui est là pour que ça se passe au mieux, en fait.
Et toi, ce déménagement et changement qui finalement est assez récent, donc tu avais ton appartement à toi, et là tu es en IHP, tu l'as vécu comment? Qu'est-ce que tu vois comme plus et comme moins?
Comme plus, j'y vois une sécurité supplémentaire par rapport à... comment dire, au fait que ouais, un loyer va être payé, c'est pas très cher, donc et en fait les IHP, ça j'ai appris il y a pas longtemps, ont le même statut qu'un hôpital, donc on peut vivre en colocation avec quelqu'un, mais c'est comme si on partageait une chambre dans un hôpital, donc on garde son statut d'isolé. Donc on peut bénéficier d'une mutuelle ou d'un CPAS complet, quoi.
Ah, ça c'est intéressant. Et donc en fait, comment tu t'es pris pour avoir accès justement à ce logement?
Tout d'abord, c'est comme un peu partout quand on veut se présenter dans une institution, il faut téléphoner. faut souvent attendre assez longtemps avant d'avoir un rendez-vous. Puis quand on a ce rendez-vous, y a un premier rendez-vous pour prendre un peu ses marques et tout ça, et puis il nous propose un deuxième rendez-vous. Là, j'en ai eu trois en tout avant d'emménager. Et après ces rendez-vous, il décide si oui ou non on est apte à partager la vie de quelqu'un dans cet appartement, quoi.
C'est une procédure qui prend combien de temps?
Ça peut prendre 3 mois, comme ça peut prendre 6 mois ou même 1 an. Ça peut être très long.
Et donc, c'est une des difficultés pour justement accéder à un IHP. En fait, la durée de temps qu'on passe à attendre à avoir cette possibilité justement d'emménager là-dedans. Quelles sont les autres difficultés que tu vois par rapport à l'accès à ce type de lieu?
Par exemple... Si la personne a un problème avec l'alcool, ça peut être difficile pour l'accès à une IHP parce que y a des règles et par exemple celle de ne pas boire. Donc ça peut être problématique. Ça, c'est la même chose pour toutes les autres substances, les drogues et tout ça, c'est interdit. Moi, je trouvais ça assez ouvert, en fait, comme façon de voir les choses. Donc, j'étais agréablement surpris. Donc, moi, mon IHP, c'est Prélude. Et j'ai pas trouvé qu'il y avait tellement de contraintes, en fait. C'était assez naturel comme emménagement.
Et donc, tu as emménagé en mars, c'est ça?
Oui.
Ok. Et donc, en général, combien de temps est-ce qu'on peut vivre dans un IHP, en général?
Ça dépend. Ici, le système, ça va de 6 mois en 6 mois. Donc, tous les 6 mois, on fait un bilan. Et on pose le pour et le contre pour savoir si on continue à vivre là ou si on est prêt à emménager dans un appartement en solo. Et on peut y rester de 5 à 10 ans. Enfin, ça dépend des IHP aussi, mais ça peut être très long aussi, quoi.
Oui, mais en tout cas pour toi, en tout cas pour l'instant, c'était une bonne solution pour toi personnellement.
Ah oui, à fond. Moi, j'étais vraiment preneur parce que j'avais besoin de m'écarter d'un certain milieu et d'un certain endroit. Et donc, me retrouver en IHP, c'est avoir une certaine sûreté de l'existence, quoi, une qualité d'existence que je n'aurais peut-être pas trouvé si j'avais directement vécu tout seul. Et en plus ils arrivent à mettre des choses en place, par exemple mais comme Christian disait, des infirmiers qui passent pour vérifier si on prend bien ses médicaments, il y a des infirmiers qui passent pour faire le semainier, par exemple, il peut y avoir des gens qui passent pour faire le nettoyage de l'appartement. Enfin, il y a plein de choses possibles à mettre en place pour que ça soit plus fluide, quoi.
Et donc tout ça, enfin, quand tu vois ton référent, par exemple, tu peux dire voilà, on règle ensemble les factures ou en général la vie quotidienne, enfin tout ce qui peut-être se passer quand on habite, les trucs de la vie quotidienne en appartement, quoi.
Ouais, exactement. C'est tout est un peu accompagné et sans trop être intrusif non plus, donc c'est ça qui est bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un peu à la carte, c'est à la tête du client, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont demander plus d'attention pour certaines choses et pas pour d'autres, et puis ça va être le contraire pour une autre personne. Donc voilà, ça se fait assez bien. Et j'ai été agréablement surpris, en fait, de voir ça, parce que au début, quand on m'a dit, enfin, c'était plus une démarche de mes parents qui se sentaient rassurés de me savoir en IHP avant de vivre tout seul. Et moi, j'avais l'impression de rentrer en institution fermée ou quoi, et de ne plus avoir une certaine liberté. Et en fait, rien à voir. On est très libre. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Sauf qu'il y a des règles à respecter, Mais il y a toujours moyen de moduler des choses, et les règles, elles sont contournables, moyennant une certaine discrétion, on va dire. Et donc voilà,
ça se passe bien. On coupe au montage.
En tout cas, c'est merci beaucoup pour ton témoignage par rapport aux IHP. En tout cas, c'est très intéressant de savoir qu'il existe une solution comme ça. Enfin, aussi que tu t'es senti soulagée finalement que c'était pas aussi enfermant que tu pensais.
Exactement. Ouais. Ça, au début, je croyais que ça allait être comme rentrer en hôpital psychiatrique, et puis finalement.
Est-ce que tu peux inviter qui tu veux dans ton appartement?
Alors, on peut inviter qui on veut, mais on peut pas. Normalement, on ne peut pas laisser loger quelqu'un. Mais il y a toujours moyen de faire une entorse au règlement, mais ça, c'est discuter avec justement le référent et le responsable de l'IHP.
Ok, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc maintenant, nous allons passer en musique, nous allons écouter Soldier of Love de Sade.
Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light, the endless pool on the other side. It's a wild, wild west. I'm doing my best.
nous rejoignent maintenant, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et son émission Silence Radio. C'était Soldier of Love de Shadé. Maintenant, c'est l'heure de la chronique littéraire de Laurence Martin. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un petit souffle sur la capsule dû à un souci technique, mais la capsule est parfaitement audible.
Bonjour Laurence.
Bonjour Thomas.
Alors Laurence, qu'est-ce que tu as lu pour nous ce mois-ci ?
Alors le premier livre c'est un roman, ça s'appelle La salle de bal. L'auteur c'est Anna Hope et c'est chez Gallimard. En fait ça se passe au début du siècle, du 20e siècle en Angleterre, dans un asile où une jeune femme est envoyée après avoir cassé un carreau. À son travail, donc elle est pas vraiment folle, mais disons qu'elle dérange les autres autour. Et là-bas, elle va rencontrer John, qui lui est mélancolique, et c'est pour ça qu'il a été envoyé à l'asile. En fait, les hommes et les femmes vivent de façon tout à fait séparée, mais le vendredi soir, ils se retrouvent, parce qu'il y a une salle de bal dans l'asile, et ils se retrouvent là, et ils dansent. Et donc, c'est là qu'ils vont tomber amoureux. Et on a un troisième personnage. Le troisième personnage, c'est un médecin qui dirige l'orchestre, et qui est très séduit par les thèses de l'eugénisme. Donc c'est quoi l'eugénisme ? Ben c'est vouloir réduire la population des pauvres, des fous, des faibles d'esprit, comme on disait à l'époque. Donc il va se mettre un peu au travers du chemin de Ella et John, les deux héros. Et ça a été inspiré par un véritable asile où il y avait vraiment cette salle de bal. C'est vraiment un très très beau roman. Et le deuxième livre, c'est un livre sur la drogue qui s'appelle Addict. L'auteur, c'est Marie de Noailles, qui vit dans une famille assez aisée, puisqu'elle c'est la famille de la fameuse auteure Anna de Noailles. Mais malgré ça, elle a, depuis qu'elle est petite, une espèce d'angoisse de vivre, comme ça, un mal de vivre. Et jeune adolescente, elle va goûter à la drogue, et très vite, en fait, elle va tomber dans la drogue, dans l'alcool. Et elle raconte un peu comment elle s'en est sortie. Elle a fait plusieurs dizaines de cures et d'hospitalisations en psychiatrie, parce que chaque fois que ses parents ou ses proches voulaient la faire soigner, elle disait oui, même si elle n'avait pas le désir de s'en sortir. Donc elle rechutait chaque fois. Et elle va finir par s'en sortir grâce à la méthode Minnesota, où en fait là les soignants sont tous des anciens addicts, et elle va elle-même devenir psychologue. Donc c'est un peu aussi sur la pérédance, voilà. Et c'est chez Point. Donc je rappelle les titres, c'est La salle de bal de Anna Hope et Addict de Marie de Noailles.
Merci Laurence.
C'était la chronique littéraire de Laurence Martin. Vous êtes de retour sur les ondes de Psilence Radio avec nos invités Christian Marchal et Françoise Calonne. Alors Françoise, un déménagement, une expo au Centre culturel Jacques Franck, c'est une rentrée mouvementée pour leur atelier. Mais est-ce que, avant tout, tu pourrais nous expliquer à nos auditeurs ce qu'est leur atelier ?
Alors leur atelier... officiellement, ou le label officiel, c'est CEC, c'est-à-dire c'est un centre d'expression et de créativité, qui est un label de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au niveau éducation permanente. Donc, c'est un lieu qui est assez unique en son genre. Il est différent de ce qu'on appelle, de ce qui est assez courant dans le secteur santé mentale, les centres de jour, étant donné qu'il est un lieu donc uniquement culturel, artistique, et qu'il est ouvert à toute personne qui souhaite développer ou découvrir une démarche artistique, quel que soit son parcours. Potentiellement, il est ouvert à tous. Et il est d'accessibilité totalement libre, sans entretien d'admission, sans diagnostic préalable, sans exigence quelconque, si ce n'est le désir d'être là. Donc c'est ce qui fait vraiment sa spécificité, le fait également qu'il est animé par des artistes professionnels qui ne sont pas des art-thérapeutes, mais qui sont vraiment là en tant qu'artistes, dans leur désir de création et de transmission.
Donc si par exemple un voisin passe la porte parce qu'il voit de quoi il s'agit, les ateliers artistiques lui plaisent.
Voilà, tout à fait. À l'heure actuelle, ça devient un peu, le rêve devient réalité, dans la mesure où, du fait de nos nouveaux locaux, c'est un potentiel que nous avions, mais que nous ne savions pas vraiment mettre en, en réalité. Et à l'heure actuelle, avec cette double accès donc au niveau de la rue, nous avons maintenant deux entrées par le service de santé mentale ou par l'adresse même du lieu. L'accessibilité est beaucoup plus importante, la déstigmatisation aussi. Et en effet, dès le départ, nous avons commencé à accueillir des personnes du quartier ou de la rue qui nous demandent « mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'il en est ?» chose qui était absolument inexistante avant, quoi.
Et c'était le souhait de départ de rester justement implanté dans un même quartier, de déménager tout en restant dans un même quartier ?
Ah oui, c'est plus que ça, c'est-à-dire que c'est non seulement dans le même quartier, mais c'est même, on va dire, dans le même... dans la même maison également, puisque leur atelier reste en ces lieux, tout en traversant le mur et en s'élargissant chez le voisin, ancien imprimeur. Donc en fait, il n'y a aucune rupture en tant que telle. On garde l'espace antérieur, mais on s'étend, quoi. On s'étend juste à côté. Et donc, il y a une continuité fondamentale qui est maintenue, et cette extrêmement heureux, c'est quelque chose dont on n'aurait même pas osé rêver et qui malgré tout à un moment s'est présenté à nous. Pendant des années, on a cherché d'autres lieux éventuellement dans le quartier proche, on n'a jamais rien trouvé de plausible, et quand notre voisin imprimeur nous a présenté son projet de stopper son activité, c'était pour nous un rêve qui devenait vraiment réalité, quoi.
Et quels réseaux sont tissés justement avec le quartier au fil des années ? Que ce soit avec d'autres structures ou...
En fait, notre réseau, c'est vraiment tout le réseau psychosocial, que ce soit vraiment des consultations, des maisons médicales, des médecins ou des psychologues du quartier, et puis un peu plus large, des centres de jour nous envoient, des hôpitaux, en fait c'est vraiment tout le réseau qui nous envoie, et puis le bouche à oreille également du quartier, quoi.
Et avant que vous nous disiez comment vous aussi vous êtes approprié les nouveaux lieux, que Christian nous parle aussi du déménagement de l'autre lieu, où là il change carrément de quartier, on va écouter Adrien qui répond au micro de Carole, c'est un fidèle de leur atelier, et il nous dit comment il a vécu ce changement de leur atelier.
Et il y a un partage entre la nostalgie de ce que c'était avant, d'un petit lieu où tout le monde se concentre, où t'as une espèce de concoction comme ça, entre différentes personnes, où on se marche un peu dessus, mais en même temps on prend ses habitudes. Et là c'est un lieu vachement plus ouvert, vachement plus vaste. Du coup tu te demandes vers où ça mène.
Alors Françoise, et toi, comment tu vis le changement ?
Alors moi je le vis extrêmement bénéfiquement, parce que c'est clair que lorsqu'on travaille là à mi-temps, il y a un phénomène absolument très tangible d'étouffement. Évidemment, il y a peut-être un autre vécu du lieu des participants, mais il y a énormément de participants qui néanmoins, au courant des années, puisque ça fait quand même presque 20 ans que j'y suis, donc j'ai quand même vu l'évolution, il y en a beaucoup qui ne pouvaient plus venir à l'atelier tellement ils se sentaient étouffés, quoi. L'espace vital de travail était devenu beaucoup, beaucoup trop restreint.
Mais donc, vous aviez eu combien de participants comme ça dans ce lieu étroit en général, enfin...
On pouvait aller jusqu'à 20 participants, 2 ou 3 animateurs, et il faut donc visualiser l'endroit, donc c'est plus ou moins 20 mètres sur 7, mais avec absolument tout dedans, c'est-à-dire un secrétariat, une presse de gravure, un four à céramique, une collection, les casiers pour tout le monde, le matériel de sculpture, le matériel de gravure, les archives, absolument tout. Donc c'était rempli comme un œuf. Alors sans compter que lorsqu'on était à la veille des expos, que des œuvres étaient créées, on ne savait absolument plus où les mettre. Donc on débordait régulièrement dans la gerbe, ce qui est aussi très positif, c'est-à-dire que ayant besoin des autres, on faisait appel aussi aux collègues proches et aux espaces autres, avec parfois plus ou moins de bonheur, parce qu'on peut être aussi envahissant. mais donc c'était absolument nécessaire. Ou bien alors, il faut avoir une vision de non-évolution, ce qui par rapport à la question de l'art, de la recherche, de la création, est un peu antinomique à un moment.
Vous disiez que vous étiez vidéaste.
Oui.
Est-ce que vous faites aussi des films à leur atelier ?
Ah oui, 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 on a un atelier vidéo, donc chaque semaine, avec mon collègue Marc Mert. Et donc, on réalise que ce soit des fictions, des documentaires. Pour l'instant, on fait un documentaire sur le projet des Jardins Latinis, à côté de Mézières. Et chaque année, notre film passe au festival Images Mentales. Et un ou plusieurs, et parfois ce sont des petites capsules de cinéma d'animation. Enfin, on essaye de faire un peu de vraiment différents types de langage ou de démarche, au cas par cas, vraiment en fonction des participants qui arrivent et de leurs intérêts propres, quoi.
Quand j'entendais le témoignage d'Adrien, ça me rappelait un peu l'ambiance de l'autre lieu, version rue Marie-Thérèse.
Oui, tout à fait. Ben voilà, on a quitté un lieu aussi qui devenait un peu trop exigu. Mais c'est un lieu où on est quand même resté 27 ans. Je crois qu'un lieu, ce n'est pas que des murs, des pièces ou du mètre carré. C'est aussi les gens et les travailleurs qui les fréquentent. C'est ça qui donne la vie à un lieu. À un certain moment, ben on s'est rendu compte que vraiment, pour que nos projets puissent prendre de l'expansion, qu'il ait une vie plus harmonieuse, ben qu'il fallait déménager dans un autre lieu, donc l'autre lieu qui déménage dans un autre lieu. Et voilà, moi j'y vois aussi que du positif, mais c'est parce qu'on a aussi ramené tous les travailleurs et tous les visiteurs, les membres de l'autre lieu qui nous ont suivis dans ce nouveau lieu. Et là aussi, c'est des petites ASBL comme leur atelier, comme l'autre lieu et comme d'autres ASBL. Souvent, on n'est pas très gâtés dans les bâtiments et tout ça, et pourtant, les personnes qu'on accueille mérite d'être bien accueilli. Donc moi je suis toujours un peu fâché de devoir les recevoir dans les caves, dans des lieux mal adaptés et tout ça. Non, ils méritent d'avoir un beau lieu. Ils méritent d'avoir un chouette lieu, joli, où on peut s'installer, où ça peut justement... Tu disais que c'était antinomique dans des lieux étroits où on se fermait artistiquement, c'est la même chose. Là aussi, ben à l'autre lieu, version Marie-Thérèse, ben on faisait fonctionner le lieu avec les espaces qu'on avait, mais du coup on se refermait de plus en plus aussi, notre pensée se refermait de plus en plus, et puis un nouveau lieu, ben ça permet de ouvrir cette pensée, notre créativité, même des trucs tout à fait loufoques, mais voilà, ça fait retravailler quelque chose, il y a quelque chose qui est nouveau au travail, et c'est ça vraiment qui est très chouette. Et pour les membres de l'autre lieu, c'est la même chose, donc eux aussi, ils peuvent nous proposer des activités, des animations, ils peuvent exploiter le lieu et tout ça, nous on demande que ça, que ce lieu soit disponible pour eux, parce que c'est quand même eux l'important.
Mais j'ai eu la chance, et je pense que mes collègues aussi, hein, puisqu'on était là encore tout à l'heure, de visiter le nouveau lieu, voilà. Et c'est vrai que c'est splendide, c'est vraiment un très très beau bâtiment, avec plein d'étages, plein de bois, plein de fenêtres et tout. C'est vraiment chaud et spacieux, je pense. Donc c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Vous allez fêter ça, hein?
Oui,
vous
oui,
allez
tout
fêter
à fait.
Ça le jeudi, ce jeudi.
Ce jeudi.
Jeudi, voilà, par une inauguration.
Oui, c'est ça, une petite pendaison de crémaillère, je ne sais pas si ça se dit encore, mais enfin, voilà.
Si, si.
Oui, voilà une pendaison de crémaillère, donc oui, on a un peu attendu, comme on a déménagé le 22 mai, ben voilà, on a un peu attendu qu'on soit vraiment bien installé pour faire cette invitation à tous nos amis, à tous ceux qui nous entourent, qui nous aident, nos partenaires, les personnes qui fréquentent l'autre lieu. Et on a articulé ça à notre lancement de campagne aussi sur l'internement. Donc là aussi, il y aura la présentation de cette nouvelle campagne qui est aussi articulée avec un web documentaire où il aura moyen de, où il sera visible à l'autre lieu. Donc ça aussi, plus d'autres productions de l'autre lieu, aussi bien artistiques que d'autres, ce qu'on a fait un peu dans un passé un peu plus lointain et récent, et il sera toujours exposé, tout ça sera exposé à l'autre lieu.
Oui, donc tu parlais du web documentaire hein, sur l'internement, donc c'est un web documentaire qui a été réalisé en collaboration avec la Ligue des droits de l'homme et la SBL Citoyen.
Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est vraiment une collaboration. On a décidé vraiment d'employer en fait toute leur production, ce qu'ils avaient déjà fait. Donc, on est parti d'une recherche de citoyens avec l'aide de la Ligue des droits de l'homme qui ont travaillé. Donc, du moins, la commission psychiatrie a vraiment travaillé très fort sur le concept d'internement. Et donc, ce webdo rassemble toutes sortes de choses. Donc, qui donne une information, mais qui donne aussi matière à réflexion. Donc, que ce concept, que ce thème ne soit plus réservé aux experts ou vraiment de ce genre de pratique, mais ce soit vraiment qu'on ouvre ça sur le grand public pour qu'il puisse avoir ne fût-ce qu'un débat sur cette chose très sensible, hein, parce que ça fait appel à pas mal de choses. Donc.
Oui, exactement. Rappelons aussi que la nouvelle adresse de l'autre lieu, c'est 5 rue de la Clé.
Tout à fait.
Et Aline avait encore une question pour Françoise.
Oui, donc si les nouveaux locaux de leur atelier comptent aussi une galerie, si j'ai bien compris, il paraît aussi que les artistes de leur atelier ont déménagé pour l'instant dans un étrange pays qui s'appelle Glaukenland. Tu peux nous en dire plus ?
Alors oui, donc chaque année nous faisons en moyenne 2 expositions qui rendent visibles un peu les réalisations de leur atelier selon souvent des projets liés à des thématiques. Donc depuis un an et demi, on travaille sur la thématique de machines et mutations humaines. Et donc nous avions déjà rendu certains travaux visibles cet été au Jacques Franck. Et la suite de ces travaux est présentée dans une expo cette fois collective avec différents artistes invités pour cette exposition Glaukenland, qui est un terme qui a été choisi par Monsieur Vidal, qui est donc responsable des expositions au Jacques Franck. Ce terme en fait évoque donc toute une histoire en fait, et évoquait autrefois plutôt une dimension du bleu brillant, de quelque chose de clair et brillant, et puis progressivement il s'est étendu vers quelque chose de plus triste et sinistre. Donc il a voulu par ce terme au fond englober une thématique qui aboutit à un travail sur l'urbanisme, l'évolution de nos villes en lien avec la machine est quelque chose qui à la fois peut évoquer la lumière, les néons, l'électricité de nos villes, et puis quelque chose qui peut devenir plus sombre et plus glauque en fonction du terme qui est entendu maintenant, quoi. Alors ça se recroisait avec notre thématique machine et mutation humaine, via la question de la machine qui peut autant concerner la ville que la mutation humaine de notre côté. Donc il y a un recouvrement tout en n'étant pas exactement égal, quoi, au niveau de l'objectif de travail. Donc nous sommes insérés avec un certain nombre d'œuvres qui ont été réalisées pendant cet été avec des artistes en résidence dans nos nouveaux espaces, donc à l'atelier 51 qui est 51 rue Thieffry. Et l'un des artistes invités était spécialisé dans le travail avec des néons, justement, donc c'était un heureux hasard, ce qui fait que les œuvres qui sont présentées au Jacques Franck ont la plupart donc l'intégration dans la sculpture de cette dimension de lumière et de néons. Étant donné que c'est une expo donc collective, nous n'avions pas l'espace non plus pour montrer l'ensemble du travail réalisé, c'est pourquoi nous montrons le reste de l'exposition à la galerie Psychart, qui se trouve donc dans dans l'espace de nos nouveaux ateliers, étant donné que nous avons donc investi les anciennes imprimeries voisines, qui étaient trop grandes. Là, on se retrouvait dans l'extrême contraire, donc d'être dans des espaces quand même beaucoup trop grands. Et donc, nous partageons ces nouveaux espaces avec une autre ASBL, qui s'appelle l'ASBL Psycarte, qui a, elle, comme objectif la promotion des œuvres de personnes en difficulté mentale. Ils ont une collection et une galerie. Et donc cette galerie, bien sûr, nous est prêtée régulièrement lorsque nous aboutissons des projets et que nous avons besoin donc d'un espace supplémentaire. Notre objectif n'est pas d'exposer systématiquement là, parce que le but est toujours de sortir et d'aller vers la cité, de nous intégrer dans les lieux aussi multiples et divers qu'il est possible de les trouver. Mais dans cette circonstance-ci, ça nous a été bien utile, puisque nous avions déjà le Jacques Franck et nous complétons par le reste de l'exposition à la Galerie Psycarte.
Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant enchaîner avec une musique If Everyone Cared de Nickelback. From underneath the trees we watch the sky. The satellites, I never dreamed that you'd be mine. But here we are, we're here tonight. Singing, hey, oh man, I'm alive, I'm alive. Singing, hey, man, I'm alive. If everyone cared and nobody cried, if everyone loved and nobody. Bien sur Radio Panique 105.4 et sur l'émission Silence Radio. C'était If Everyone Cared de Nickelback. Et maintenant, il y a Tanguy qui nous a préparé un slam.
Déménagement. Déménager, qu'est-ce que cela veut dire ? Se préparer, car cela peut nous nuire. En fait, ce que tu quittes te fait mourir pour renaître ailleurs dans un nouvel avenir. Cela te met dans une position délicate qui peut t'amener à déprimer un bon coup. Alors, si tu es déjà mentalement un peu fragile, c'est la descente aux enfers sans détour. Le tout est de savoir sur qui tu peux compter. Car quand tu es seul, qui va t'aider à remonter ? Seul, ton stress, tu dois apprendre à le dompter. Tout seul, comment vas-tu t'organiser ? Perso, moi, j'ai horreur des déménagements. Et cela, je vous le dis sans ménagement. Pourtant, souvent, c'est indispensable. Il faut montrer qu'on en est capable. Toute la vie n'est qu'un grand déménagement. On se pose, on repart, on se repose, et ce tout le temps. Si on arrête de bouger, c'est qu'on est déjà mort. Mûrissons nos choix et les plans qu'on élabore.
Merci beaucoup Tanguy.
Merci.
Et maintenant, on va passer à une page culture avec Pascal.
Oui, eh bien, je suis très heureuse en fait de vous présenter une exposition que j'ai beaucoup aimé, et voilà que j'ai interrogé la commissaire de cette exposition, et je vous propose de l'écouter.
Je vous écoute, oui. Donc cette exposition ici au musée Guilin, vous savez expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ?
Oui, Alléluia, c'est une exposition et c'est une collaboration avec l'atelier LAS à Vilsang. C'est un atelier avec des gens, disons, handicapés, mais très créatifs. Donc, ce sont tous les artistes qui travaillent là, parfois seuls, mais aussi avec des autres artiste d'or qui vient dans le centre et travaille avec les artistes là-bas. Mm-hmm. Et on montre en fait deux projets. Mm-hmm. Dont le premier projet est vraiment focalisé sur le projet qu'ils ont fait sur la religion. Donc, ils ont travaillé pendant une certaine période sur ce temps, sur ce thème. Et c'était une artiste, Irène Gérard. Elle a fait une interprétation de l'agneau mystique. Elle a commencé avec peindre, je crois, un cardinal, si je me souviens bien. Et donc, elle a commencé vraiment avec ce thème-là, et les autres gens ont dit, ah, peut-être c'est intéressant. Et oui, il y avait des autres artistes qui étaient intéressés pour faire quelque chose sur ce thème-là. Et donc, le résultat est très fantastique, très original. Mais ils ont aussi fait un autre projet, et c'était un projet vraiment en collaboration avec des autres artistes. Mm-hmm. Par exemple, c'était aussi une artiste flamande, Gerda den Doven. Et elle est venue là-bas et ils ont travaillé sur le Nouveau Testament, en fait, la Bible de Gustave Doré, avec les planches, les gravures de Gustave Doré. Et l'idée, c'était aussi de travailler ensemble, des couples, une artiste laïs, une artiste qui vient d'or, et le premier qui fait l'esquisse, et l'autre qui fait vraiment la gravure. Mmh. Et donc, oui, c'est un très bel résultat, et on montre ça aussi dans cette exposition.
Très bien, mais maintenant on va écouter les brèves de Pascal et Aline.
Ben oui, je suis heureuse de vous annoncer qu'il y a un grand déménagement chez nous, en fait, du côté des brèves, puisque Aline nous a rejoint. Donc voilà, mais je vais commencer par une petite brève. Donc non, je vais passer la parole à Aline d'abord.
Quoi. Là tout de suite.
Oui, là tout de suite. Oui.
Eh bien, des petites infos à mettre à votre agenda. Donc, le samedi 30 septembre 2017, de 13h à 18h, à Saint-Josse, c'est la journée porte ouverte avec la SBL Le Poinerie, qui vous invite à connaître les coulisses du restaurant Les 4 Jeudis. Les 4 Jeudis, c'est un restaurant de réinsertion permettant à des personnes ayant connu des difficultés psychosociales de se remettre en route avec un projet professionnel. Le but est de fonctionner comme un lieu tremplin. Les multiples activités du restaurant permettent à chacun de s'expérimenter à nouveau dans une activité concrète, de s'engager dans une dynamique de travail et de retrouver confiance en soi jusqu'à construire progressivement un projet professionnel. Les 4 jeudis, bah, vous pouvez aussi y manger du mardi au vendredi sur le temps de midi et ce jusqu'à 16h. C'est à la rue du Marteau, 36A à Saint-Josse. Une autre petite info, Pascal ?
Mais oui, en fait, le 10 octobre prochain, ce sera la journée mondiale de la santé mentale. C'est un mardi. Et à cette occasion, la plateforme de concertation santé mentale de Bruxelles organise un grand pique-nique dans le bois de la Cambre. Le rendez-vous se fera donc au jeudi vert. Le principe, c'est l'auberge espagnole. Donc chacun apporte un pique-nique et puis on partage. À toi.
Une journée pour prendre conscience et interroger les représentations de la pauvreté dans l'histoire, les arts, les médias et leurs enjeux politiques. Une journée pour ouvrir des portes et créer des liens. C'est donc une journée qui est organisée par l'Espace Social Téléservice en partenariat avec le CBCS ASBL. C'est le 3 octobre à la Maison du Peuple de Saint-Gilles, en matinée conférence avec la participation de Anne Roukens, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Namur, Jacques Fierens, docteur en droit et licencié en philosophie, Philippe Marion, professeur à l'Université catholique de Louvain. En après-midi, il y a des débats avec des journalistes sur les représentations médiatiques actuelles et des temps d'échange pour réfléchir ensemble à l'implication du secteur associatif dans ces représentations publiques. Donc, quelques infos pratiques, c'est à la Maison du Peuple, 39 Parvis de Saint-Gilles, le mardi 3 octobre de 9h à 17h. C'est gratuit. Attention, les inscriptions sont obligatoires avant le 22 septembre et vous pouvez vous adresser à secrétariat@téléservice.be.
Voilà, donc je précise d'ailleurs que Anne Roukens, donc qui est une des invitées, je pense, donc était notre invitée aussi.
Tout à fait.
Tout à fait. Nous avons des invités formidables. Alors, jusqu'où sommes-nous prêts à perdre notre vie pour la gagner ? Hein ? Harcèlement, burn-out, anxiété, de quoi s'agit-il ? Et si on faisait de cette souffrance une opportunité ? Eh bien, il y a une journée pour en parler, et cette journée, elle est intitulée « Le travail crève l'écran ». Il y aura en effet un film lors de cette journée, un débat, une conférence, et ça aura lieu le 25 septembre 2017. Je n'ai pas le lieu, mais vous pouvez vous renseigner sur le site de la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale.
Une dernière petite info, donc Le vent souffle sur Erzsébet, c'est une pièce de la Compagnie de la Bête Noire qui se jouera du 17 du 10 au 4 du 11 au Théâtre Marny, rue de Verny 25 à Ixelles. Céline Delbecq propose une fable poétique et épique sur le thème de l'être de désordre, celui qui est incapable d'entrer dans le cadre et de notre capacité d'écoute de la marche quand la norme est le repère commun et que nous y tenons. En marge des représentation du spectacle Le vent souffle sur Erzsébet, la Compagnie de la Bête Noire a proposé à Hélène Fresnel, journaliste et amie de la psychanalyse, de tenir une conférence à Bruxelles, Tournai et Montluçon. Elle s'intitule Folie et société, faire taire les insensés. Et donc, ça se fera au Théâtre Marny le 19 octobre 2017 à 18h. Réservation à ce.delbecq avec cq au bout @gmail.com. Attention, les places sont limitées. Et ça se fera aussi à Tournai, Maison de la Culture, le 8 novembre 2017 à 18h.
Voilà, et juste pour terminer, le petit rendez-vous mensuel habituel, hein, c'est celui proposé par l'ASBL Citoyen, qui propose un cause café, donc une rencontre le quatrième vendredi du mois. Et ce vendredi 22 du 9, on aura un cause café sur nos besoins, nos droits, comment les faire valoir et les faire respecter. Ça se passe toujours à la maison Arc-en-Ciel, donc rue Marché au Charbon 42 à Bruxelles.
En tout cas, merci beaucoup Aline et Pascal pour ces brèves, et aussi merci beaucoup à nos invités et à Tanguy, bien sûr, pour son témoignage. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur 105.4 Radio Panique. C'était l'émission Silence Radio. Et la prochaine émission aura lieu le lundi 16 octobre à 17h. C'est toujours les troisièmes lundis du mois. En direct, et si vous désirez nous réécouter, la rediffusion de ce thème-ci, cette émission-ci, le déménagement, aura lieu le vendredi 13 octobre à 19h ou en podcast sur radiopanique.org. Merci beaucoup et au revoir.
Au revoir.